Selon ce que j'avais pu comprendre, une trentaine d'années auparavant, il s'était agrégé à un couvent de minorites en Toscane, et là, il avait endossé le froc de Saint-François, sans prendre les ordres. C'est dans ce couvent, je crois, qu'il avait appris le peu de latin qu'il parlait, le mêlant aux idiomes de tous les lieux où, pauvre sans patrie, il avait séjourné, et de tous les compagnons de vagabondage qu'il avait rencontrés depuis les mercenaires de mes contrées jusqu'aux bogomiles dalmates. Là, il s'était abandonné à une vie de pénitence, disait-il. « Penitentia gitem », citait-il le regard inspiré, et de nouveau j'entendis la formule qui avait intrigué Guillaume. Mais à ce qu'il paraît, même les frères mineurs, chez qui il se trouvait, avaient des idées confuses. Car en colère contre le chanoine de l'église voisine, accusé de vols et autres scélératesses, un beau jour ils envahirent sa maison et le firent rouler dans les escaliers, tant et si bien que le pêcheur en mourut. Puis ils saccagèrent la maison de Dieu. À la suite de quoi, l'évêque manda des gendarmes, les frères se dispersèrent, et Salvatore erra longtemps dans la Haute-Italie avec une troupe de fraticelles, en somme des minorites quêteurs sans plus de loi ni de discipline. Il se réfugia alors dans la région de Toulouse, où il lui arriva une étrange histoire, tandis qu'il s'enflammait au récit, qu'il entendait faire autour de lui, des grandes entreprises des croisés. Une masse de pasteurs et d'humbles gens, en longue procession, se réunit un jour pour passer la mer et combattre les ennemis de la foi. On les appela pastoureaux. En fait, ils voulaient s'enfuir de leur terre maudite. Il y avait deux chefs qui leur inspirèrent de fausses théories, un prêtre privé de son église à cause de sa conduite et un moine apostate de l'ordre de Saint-Benoît. Ces derniers avaient fait perdre la tête à ces ingénus. Courant par bandes à leurs trousses, des enfants de 16 ans même, contre la volonté de leurs géniteurs, emportant pour tout bagage une besace et un bâton, sans argent, leur champ abandonné, ils suivaient le moine et le prêtre comme un troupeau et formaient une formidable multitude. Désormais, ils n'obéissaient plus ni à la raison ni à la justice, mais à la seule force et à leur seule volonté. Se trouvaient tous ensemble, enfin libres et avec un vague espoir de terre promise, les rendit comme ivres. Ils parcouraient les villages et les villes en s'emparant de tout. Et si l'un d'eux était arrêté, ils prenaient d'assaut les prisons et le libéraient. Quand ils entrèrent dans la forteresse de Paris pour faire sortir certains de leurs compagnons que les seigneurs avaient fait arrêter, comme le prévôt de Paris tentait d'opposer une résistance, ils le frappèrent et le précipitèrent dans les escaliers de la forteresse et brisèrent les portes de la prison. Ensuite, ils se rangèrent en bataille dans le pré de Saint-Germain. Mais personne ne s'enhardit à les affronter, et ils sortirent de Paris en prenant la direction de l'Aquitaine. Ils tuaient tous les Juifs qu'ils rencontraient, ça et là, et les dépouillaient de leurs biens. « Pourquoi les Juifs ? » demandai-je à Salvatore. Et il me répondit « Et pourquoi pas ?» Et il m'expliqua que leur vie durant, ils avaient appris de la bouche des prédicateurs que les Juifs étaient les ennemis de la chrétienté, qu'ils accumulaient tous les biens qui leur étaient refusés à eux. Je lui demandai s'il n'était pas cependant vrai que les biens étaient accumulés par les seigneurs et par les évêques à travers les dîmes, et que les pastoureaux ne luttaient donc pas contre leurs vrais ennemis. Il me répondit qu'il faut bien choisir des ennemis plus faibles quand les vrais ennemis sont trop forts. Ainsi, pensai-je, ce nom de simple leur va comme un gant. Les puissants seuls savent toujours avec grande clarté qui sont leurs vrais ennemis. Les seigneurs ne voulaient pas que les pastoureaux mettent leurs biens en danger. Ce fut donc une grande chance pour eux que les chefs des pastoureaux insinuassent l'idée que quantité de richesses se trouvait chez les Juifs. Je demandai qui leur avait mis en tête, à tous ces gens, qu'il fallait attaquer les Juifs. Salvatore ne se le rappelait pas. Je crois que lorsque de telles foules se réunissent en suivant une promesse et demandent tout de suite quelque chose, on ne sait jamais qui parle parmi eux. Je pensais que leur chef avait été éduqué dans les couvents et dans les écoles épiscopales et parlait le langage des seigneurs, même s'il le traduisait en termes compréhensibles à des bergers. Et les bergers ne savaient pas où se trouvait le pape, mais ils savaient où trouver les Juifs. En somme, ils prirent d'assaut une haute et massive tour du roi de France, où les Juifs épouvantés avaient couru en masse se réfugier. Et les Juifs, sortis sous les murs de la tour, se défendaient courageusement et sans merci, en lançant du bois et des pierres. Mais les pastoureaux mirent le feu à la porte de la tour, soumettant les Juifs barricadés aux tourments de la fumée et du feu. Comme ils ne pouvaient se sauver, préférant plutôt se tuer que mourir de la main des non-circoncis, les Juifs demandèrent à l'un d'eux, qui paraissait le plus courageux, de les passer au fil de l'épée. Il consentit, et en tua presque 500. Après quoi, il sortit de la tour avec les enfants des Juifs et demanda aux pastoureaux d'être baptisés. Mais les pastoureaux lui dirent, « Après un tel massacre de ta gente, tu prétends te soustraire à la mort. » Et ils le mirent en morceaux, épargnant les enfants qu'ils firent baptiser. Puis ils se dirigèrent vers Carcassonne, perpétrant quantité de rapines sanglantes en cours de route. Alors, le roi de France se rendit compte qu'ils avaient passé les bornes et ordonna qu'on leur opposât résistance dans chaque ville où ils passaient et qu'on défendît les Juifs comme s'ils étaient des hommes du roi. Pourquoi le roi devint-il aussi prévenant pour les Juifs à ce moment-là? Peut-être parce qu'il pressentit ce que les pastoureaux auraient pu faire dans tout le royaume et que leur nombre augmenterait trop. Alors, il fut attendri par ces Juifs, aussi bien parce que les Juifs étaient utiles au commerce du royaume que parce qu'il fallait exterminer les pastoureaux et que les bons chrétiens dans leur ensemble trouvassent raison de pleurer sur leurs crimes. Mais beaucoup de chrétiens n'obéirent pas au roi, pensant qu'il n'était point juste de défendre les Juifs qui, depuis toujours, avaient été les ennemis de la foi chrétienne. Et dans beaucoup de villes, les gens du peuple qui avaient dû payer les dettes usuraires aux Juifs étaient heureux que les pastoureaux les punissent pour leurs richesses. Alors le roi commanda sous peine de mort de ne pas prêter aide aux pastoureaux. Il rassembla une armée nombreuse et les attaqua et beaucoup d'entre eux furent tués. D'autres en réchappèrent en fuyant et se réfugièrent dans les forêts où ils périrent de privation. En peu de temps, ils furent tous anéantis. Et l'envoyé du roi les captura et les pendit par 20 ou 30 à la fois aux arbres les plus hauts, pour que la vue de leurs cadavres servît d'exemple éternel et que personne n'osa plus troubler la paix du royaume. Le fait singulier, c'est que Salvator me raconta cette histoire comme s'il s'agissait d'une très vertueuse entreprise. Et de fait, il restait convaincu que la foule des pastoureaux s'était mise en branle pour conquérir le sépulcre de Christ et le délivrer des infidèles. Et il me fut impossible de lui faire entendre que cette sublime conquête avait déjà été faite au temps de Pierre l'Ermite et de Saint Bernard et sous le règne de Louis le Saint de France. Quoi qu'il en soit, Salvator ne se rendit pas chez les infidèles, parce qu'il dut s'éloigner au plus tôt des terres françaises. Il passa dans la province de Novare, me dit-il, mais sur ce qu'il advint alors, il resta dans le vague. Enfin, il arriva à Casale, où il se fit accueillir dans le couvent des Minorites, et c'est là, je crois, qu'il avait rencontré Remigio, précisément lorsque beaucoup d'entre eux, persécutés par le pape, changeaient de froc et cherchaient refuge auprès de monastères d'un autre ordre pour ne pas finir brûlés. Comme nous avait en effet raconté Hubertin. Grâce à ses longues expériences dans de nombreux travaux manuels, qu'il avait pratiqués à des fins malhonnêtes quand il errait librement et à de saintes fins quand il errait pour l'amour de Christ, Salvator fut aussitôt choisi comme aide par le scélérier. Et voilà pourquoi, depuis des années, il se trouvait là, en bas, peu intéressé aux fastes de l'ordre, beaucoup à l'administration de la cave et de la dépense, libre de manger sans voler et de louer le Seigneur sans risquer le bûcher. C'est là l'histoire que, par lui, j'appris, entre une bouchée et l'autre, et je me demandais ce qu'il avait inventé et ce qu'il avait passé sous silence. Je le regardais avec curiosité, non point pour la singularité de son expérience, mais au contraire précisément parce que ce qui lui était arrivé me semblait l'épitomée remarquable de tant d'événements et de mouvements qui rendaient fascinante et incompréhensible l'Italie de cette époque. Que ressortait-il de ses propos? L'image d'un homme à la vie aventureuse, capable même de tuer son semblable sans se rendre compte de son crime. Mais bien qu'à cette époque toute offense à la loi divine me semblât égale en gravité, je commençais déjà à comprendre certains des phénomènes dont j'entendais parler, et qu'une chose est le massacre que la foule, exaltée presque jusqu'à l'extase et prenant les lois du diable pour celles du Seigneur, pouvait commettre, et tout autre chose l'assassinat individuel perpétré de sang-froid dans le silence et la ruse. Et je n'avais pas l'impression que Salvator puisse être entaché d'un crime pareil. D'autre part, je voulais découvrir quelque chose sur les insinuations faites par l'abbé, hanté que j'étais par l'idée de Fra Dolcino, dont je ne savais presque rien. Et cependant, son fantôme paraissait flotter sur bien des conversations que j'avais entendues ces deux derniers jours. Ainsi, à brûle-pourpoint, je lui demandais « Dans tes voyages, tu n'as jamais connu Fra Dolcino ?» La réaction de Salvator fut singulière. Il écarquilla les yeux, s'il était possible de les avoir encore plus écarquillés, se signa à plusieurs reprises, murmura quelques phrases brisées dans une langue que cette fois vraiment je ne compris pas. Mais j'eus l'impression de phrases de déni. Jusqu'à présent, il m'avait considéré avec sympathie et confiance, avec amitié, dirais-je. En cet instant, il me regarda presque avec hostilité. Puis, sur un prétexte, il s'en alla. Désormais, je ne pouvais plus résister. Quel était ce frère qui inspirait la terreur à quiconque l'entendait nommer? Je décidai que je ne pouvais pas rester plus longtemps en proie à mon désir de savoir. Une idée me traversa l'esprit. Hubertin. Lui-même avait prononcé ce nom, le premier soir que nous le rencontrâmes. Lui savait tout des vicissitudes claires et obscures des frères, fraticelles et autres de la même engeance, de ces dernières années. Où pouvais-je le trouver à cette heure-ci? Certainement à l'église, plongé dans la prière. Et c'est là, vu que je jouissais d'un moment de liberté, que je me rendis. Je ne le trouvais pas, et même je ne le trouvais pas jusqu'au soir. Et je restais ainsi sur ma faim, tandis qu'il se passait d'autres faits qu'il me faut raconter maintenant.